Voilà, tu me mets sur le fait accompli. du coup, ça s'appelle Un être humain comme un autre. Et je parle en fait de sujets qui me touchent particulièrement, mais en fait qui nous touchent tous. Des sujets profonds où je vais vraiment creuser qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, comme la nature humaine. Donc j'ai fait deux vidéos pour l'instant. Une vidéo sur le jugement, cette manière qu'on a aussi de parfois juger l'autre, juger celui qui est à côté de nous. Et également aussi sur le toujours plus, qu'on a toujours besoin d'avoir plus, plus, plus. Donc voilà, c'est ça pour l'instant.
Merci Xavier, bravo. En tout cas, on peut prier pour ça, que ça puisse vraiment toucher les cœurs. Et on va prier pour ce matin, surtout que nos cœurs soient touchés au travers de ce que Xavier a préparé, reçu du Seigneur. Et d'habitude, on prie pour Xavier, on prie pour nous. Et ce matin, je vais vous faire travailler. Voilà, je suis désolé, c'est fin d'année, vous êtes fatigués. Mais je trouve bien si nous, on s'active dans la prière. Vous êtes d'accord? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va prier pour notre voisin de droite, pour que le Seigneur le bénisse, pour que le Seigneur ouvre ses oreilles, ouvre son cœur. Commencez pas, on va le faire. Hein. vous êtes très obéissants. je vois qu'il y en a qui sont déjà partis. Et il n'y a pas besoin de se déplacer, si jamais, de se mettre à côté de quelqu'un. Parce que, en fait, si vous priez pour, par exemple, Mathurin, si tu pries pour ta voisine, dans ce cas-là, Isabelle, et puis Isabelle, bah, elle arrive au bout, hop, ça revient, et Isabelle va prier pour Philippe. Vous voyez, on a toujours quelqu'un à notre droite. Et il n'y a que nous deux qui... C'est circulaire. voilà, ce que je vous propose, on prend juste quelques minutes et on prie pour notre voisin ou notre voisine de droite, et que le Seigneur leur remplisse du Saint-Esprit, le Seigneur ouvre son cœur, le Seigneur travaille sa vie, et que des bénédictions soient sur lui pour ce temps de message. Amen.
Yes, trop bien. Amen. Une lumière brille dans les ténèbres. Bonjour à tous, c'est vraiment avec un grand plaisir que je me trouve devant vous ce matin pour vous apporter ma troisième prédication à Lazare. Ouais, peut-être pour l'instant certains d'entre vous se disent, mais comment ça, trois? Non, mais c'est la première fois qu'on le voit là devant lors d'un culte dimanche. Alors oui, c'est ma première fois lors d'un culte, mais j'ai également j'ai eu la grande joie de pouvoir partager une partie de mon témoignage au groupe Kadosh et leur apporter un encouragement au travers de ce témoignage. Et j'ai également pu aussi encourager nos anciens, il y en a plusieurs dans la salle, à trouver vraiment ce bon équilibre sur la crête qui est notre marche avec Dieu, afin de tomber ni à gauche ni à droite de celle-ci. Alors du coup, ce matin, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même une première. Et je me réjouis vraiment de pouvoir passer ce temps avec vous. Comme vous le savez, nous sommes dans la période des fêtes. Et qui dit période des fêtes, dit grande joie, reconnaissance pour la venue de Jésus. Mais est-ce que cette période est remplie seulement de joie? Qu'en est-il de notre rapport aux autres pendant celle-ci? Sommes-nous pas parfois un peu trop centrés sur nous-mêmes? Après tout, on est tellement bien entre croyants. entre frères, n'est-ce pas? Alors, je fais exprès de vous piquer un peu, car je crois que le Seigneur désire nous interpeller profondément. Ce matin, je vais vous parler de joie, mais je vais également vous parler de peine. Je vais vous parler d'un Sauveur qui est venu pour nous, croyants, mais également pour d'autres, mais pas que. Et alors que je préparais cette prédication, le Seigneur m'a demandé de prendre un passage dans le livre d'Ésaïe qui, je pense, va parfaitement aussi dans le thème de Noël. Et en le lisant plusieurs fois, j'ai ressenti tout d'abord une grande joie, mais également aussi accompagnée d'un fardeau, ce qui a vraiment donné une direction à ma prédication de ce matin. Le passage en question parle d'une lumière qui brille dans les ténèbres pour tous. Si jamais vous vous demandez ce que c'est ce manteau, vous verrez au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Mais avant de rentrer pleinement dans notre texte, permettez-moi d'abord de poser le contexte. Pour cela, je vais vous raconter une histoire. Et comme toute bonne histoire, elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois un peuple que Dieu aimait tellement, un peuple qu'il s'est choisi afin d'être son peuple. De ce fait, il lui a demandé d'être saint. Mais bien que choisi par Dieu lui-même, ce peuple restait profondément humain et pécheur. On parle même d'un peuple impur qui avait le cœur dur et qui n'écoutait pas le message de Dieu qui venait de la bouche des prophètes. Et malheureusement, cette attitude amena des conséquences. Un peuple étranger monta en puissance, au point où un jour, ce peuple qui était de base choisi par Dieu sera même exilé et l'une de leurs villes complètement détruite. Je vais appuyer cela par deux textes, tout d'abord Ésaïe 8, 22. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe 5, 30. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses, et la lumière sera obscurcie par des nuages. C'est dans ce contexte terrible qu'un prophète du nom d'Ésaïe vient s'adresser au peuple de la part de Dieu. Plusieurs années avant que le peuple ne soit déporté, il va adresser un message. Oui, il y a un jugement, mais il y a également aussi de l'espérance. Nous allons donc ce matin nous attarder sur le livre d'Ésaïe, du chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, les versets 6. Lisons tout d'abord ensemble Ésaïe 8, 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. On a vu précédemment que le peuple d'Israël se trouve dans une situation désespérée. Et c'est d'autant plus le cas dans notre passage où ils font allusion à cette armée, cet empire assyrien qui a avancé et qui a gravement touché les villes de Zabulon et de Nephtali. C'est donc dans ce contexte qu'est porté ce message. Il y a un avant et il y a un après. Ce verset vraiment présente cette transition. Le temps du mépris laissera la place à la gloire. Les temps passés au temps à venir. Et même si les souffrances que vit le peuple à ce moment-là, c'est leur juste récompense pour leur désobéissance et leur éloignement vis-à-vis de Dieu, malgré tout, Dieu ne les abandonne pas. Dieu est bon et il n'abandonne pas son peuple, et ce, même s'il le mérite complètement. Et j'ai envie de dire, il y en est de même pour nous. Qu'importe à quel point nous sommes éloignés de lui, il ne nous abandonne pas. Et ça prend d'autant plus de sens pour nous pendant cette période de fête où on se rappelle que le Seigneur a envoyé son Fils, Jésus, pour nous. Mais je vais peut-être un peu vite, nous verrons cela plus loin dans notre lecture. il y a un avant et un après. Il y a les temps passés et il y a les temps à venir. Dans ces temps à venir, la gloire recouvrira un territoire. Je vous propose de relire ensemble Ésaïe 8, 23. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Bien que d'un point de vue historique, le règne de Dieu n'est pas encore arrivé, Ésaïe, rempli de foi, le voit venir. Et il se trouve même qu'au regard de la foi à ce moment-là, cette réalité est d'ores et déjà présente. Une dynamique qu'on vit encore aujourd'hui, ce fameux décalage entre le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu est là présent, mais pas encore complètement. Mais là encore, je vais un peu trop vite. Attardons-nous un instant sur la fin de ce verset. Cette fameuse région voisine de la mer de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Jésus s'y est rendu et une grande partie de son ministère a eu lieu dans cette fameuse région. Jésus a accompli cette parole dite par le prophète des siècles plus tard. Que nous montre encore la fin de ce verset? Ésaïe annonce le salut divin, mais il ne va pas préciser quand ça aura lieu. Alors bien sûr, on sait maintenant qu'une partie de ces choses se sont réalisées au travers de Jésus, peut-être même la totalité. Mais le fait qu'Ésaïe ne mentionne aucune notion de temporalité nous pousse à prendre conscience que cela n'est pas important. Le plus important est qu'il y aura un secours qui aura une portée plus grande que le peuple d'Israël. Il est fait mention des populations étrangères. Chaque fois qu'un salut est annoncé pour Israël dans l'Ancien Testament, les peuples sont pris également en compte. Aujourd'hui, au travers de Christ, nous sommes également le peuple de Dieu. Nous avons accédé au salut. Et lors des fêtes de Noël, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Mais au même titre que pour le peuple d'Israël de l'époque, ce message de salut s'adresse aussi à nos contemporains. Jésus lui-même, dans Matthieu 9, dit ceci: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quel regard nous posons sur les pécheurs? Qu'en est-il de notre témoignage autour de nous? Est-ce que nous brillons dans les ténèbres? Il est bon d'être dans la réjouissance durant ces fêtes. Mais le Seigneur nous appelle à ne pas oublier ceux qui nous entourent, ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui le connaissent mais qui sont loin de lui et qui vivent peut-être de grandes difficultés. Comme on vient de le voir, il y a une promesse, il y a un avant et il y a un après. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Les ténèbres feront place à la lumière. Bien que les périodes de fête soient un temps où règne une grande joie, surtout dans les églises, c'est également aussi une période troublée. Pour certains d'entre nous, si ce n'est pas pour tous, on sait à quel point cette période peut être stressante. Pour ceux qui font des études, c'est toujours cette période où il y a un peu tous les travaux à faire, à rendre. Pour ceux qui sont parents, il suffit que vos enfants soient dans des écoles différentes pour que vous ayez pas une, mais deux, voire trois fêtes différentes de Noël. Il y a ce fameux aussi rush de Noël où on doit penser à plein de choses, le repas, les cadeaux, l'agenda qui se remplit, qui se remplit et qui se remplit encore. Cette période peut être vraiment stressante. Et même parfois, ça va encore plus loin. Certaines personnes peuvent se sentir complètement seules. Il peut y avoir des conflits dans les familles. Je pense que c'est important de rappeler que cette période n'est pas toute simple. Et j'hésitais à amener ce petit témoignage, mais je pense que c'est quand même important que je vous le dise. Moi-même, cette semaine, en début de semaine, lundi, j'ai perdu un très bon ami qui était dans le ministère, pasteur, jeune pasteur, 33 ans, 3 enfants. Et oui, il s'est ôté la vie et personne ne s'y attendait. C'est pourquoi je veux vraiment nous encourager à être attentifs à ceux qui nous entourent, car ils vivent peut-être de grandes difficultés. Mais Ésaïe annonce une bonne nouvelle. Lisons les versets 1 et 2 du chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Il y a plusieurs éléments importants dans ce passage et je vous propose de les prendre un par un, quelques-uns. Alors parlons tout d'abord de cette lumière. Il s'agit d'une théophanie, donc d'un moyen qu'utilise Dieu afin de se révéler. Il faut savoir que dans la Bible, la présence de Dieu est très souvent représentée par la lumière. Il s'agit même de son manteau. Psaume 104, 2. Bénis l'Éternel mon âme, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Mais on reviendra encore plus tard sur ce manteau. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans ce passage face à une théophanie. Et la plus grande des théophanies est l'incarnation de Jésus. Je vous propose de vous attarder un instant sur ce que Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, les versets 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais là encore, je vais un peu trop vite. Il est fait mention de la lumière, oui, mais peut-être c'est un peu trop tôt pour attribuer cela à Jésus. Ou pas, on le verra plus tard. Cette lumière est dans tous les cas une manifestation de la présence de Dieu. Alors que les ténèbres représentaient un temps d'éloignement avec Dieu, avec cette lumière, un nouveau jour s'ouvre pour le peuple de Dieu. Dans le texte original, il est même fait mention que cette lumière est apparue de sa propre volonté, de la volonté de Dieu. Cette lumière émane directement de Dieu qui vient délivrer son peuple qui se trouve menacé dans les ténèbres. N'est-ce pas ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous? Ce qu'il désire faire pour tous ceux qui font appel à lui? Moi-même, peut-être ceux qui étaient à Kadosh, ils ont pu entendre ce témoignage, une partie de ce témoignage. J'ai vécu une grosse période assez compliquée où je consommais pas mal de substances et du coup je vivais vraiment des ténèbres. Mais à un moment donné, Jésus s'est vraiment manifesté avec cette lumière. Chaque fois que je rentrais de chez un ami jusque chez moi, j'entendais la voix de Dieu me dire « Si tu continues dans cette voie, tu vas mourir. Si tu continues dans cette voie, tu vas mourir. » Et oui, ça a eu l'effet d'un électrochoc. Oui, Jésus s'est révélé pleine lumière jusqu'à moi, pour moi. Et je pense que là, tous ceux qui sont là ce matin, on a tellement de témoignages comme ça, où Dieu s'est montré, Dieu a brillé dans nos vies. Le tournant qu'annonce Ésaïe dans ce passage dépasse du coup la simple libération politique. Les ténèbres, c'est l'absence totale de Dieu. Mais la lumière, c'est la proximité est l'attention de Dieu qui s'établit pleinement au travers du descendant de David, Jésus-Christ. Je m'emballe un peu, revenons à notre texte. Le second élément que nous pouvons ressortir concerne les fameux ténèbres, complétés par « sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé ». Les ténèbres peuvent être parfois tellement profondes que nous pouvons les comparer à la mort. Voilà le genre de ténèbres auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, auxquelles de nombreuses personnes, au dehors et au-dedans de nos murs, sont confrontées. L'ombre de la mort. Mais lorsque je lisais ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au psaume 23, particulièrement le verset 4. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Oui, les ténèbres dans lesquelles vivent les personnes qui nous entourent sont parfois semblables à la sombre vallée de la mort. Et nous-mêmes, en acceptant Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Mais malgré le fait que ces ténèbres soient des conséquences du péché, cela n'empêche pas la lumière de Dieu de briller. Ça n'empêche pas le Seigneur d'agir. Pour tous ceux qui désirent être libérés de leur péché en Jésus, alors cette lumière peut briller dans leur vie. Ce qu'annonce Ésaïe vient directement de Dieu. C'est le Seigneur qui parle au travers de sa bouche. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. Nous arrivons maintenant à un troisième élément. De cette annonce peut découler la joie et l'abondance. Il est même fait, il est fait mention de moisson. Nous, on est dans un pays viticole, il n'y a pas la moisson, mais quand il y a les vendanges, cette joie d'avoir fait tout ce travail en amont et pouvoir enfin récolter le fruit de ce qu'on a fait. C'est de cette joie qu'il est fait mention. Et joie qui découle en fait directement de Dieu, car il est la source de toute chose. Celui qui voit une grande lumière, bien qu'il soit dans les ténèbres les plus profonds, peut se rendre compte que Dieu est présent là avec lui, et ainsi peut être dans une grande joie. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui mène le combat et qui brise tous les joues. Dans les versets 3 et 4, nous voyons cela. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Dans ce passage est présentée la cause de la réjouissance, à savoir la libération du joug. Une libération du péché, mais également de l'oppression. Au peuple est annoncé qu'un jour, quelqu'un de plus puissant que les Assyriens viendra briser le joug et amènera son propre joug empreint de douceur et de gentillesse. Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le prophète Ésaïe va mentionner la victoire sur Madian, et ce n'est pas anodin. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous relire toute l'histoire de la victoire sur Madian, avec Gédéon et tout ça, ce serait un peu trop long. Mais je vais ressortir deux éléments, quelques parallèles, pour vraiment se rendre compte en fait, de ce que cela signifie pour notre texte. Très courtement, tout d'abord, l'épisode des corps et des torches, qui est en fait en lien direct avec la lumière. Coïncidence, je ne pense pas. Deuxièmement, si on s'attarde sur l'histoire de Gédéon, nous nous rendons compte que dans cette victoire, la part des hommes a été très minime. Et là aussi, dans notre texte d'Ésaïe, et à plus grande échelle dans nos vies, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est en partie et premièrement par la seule grâce de Dieu. Donc le texte d'Ésaïe nous montre cela. C'est Dieu l'instigateur de toutes choses. Notre texte nous montre qu'il y aura une justice. Même d'ailleurs, à la fin de celui-ci, c'est écrit que la lumière laisse la place au feu qui brûle tous les butins de guerre. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça fait peut-être référence au jugement dernier. Je vous en laisse complètement juge. Nous-mêmes, nous étions sous le poids du péché et de la condamnation. Mais en Jésus, car tout l'ensemble du texte pointe vers lui, nous avons été pleinement libérés. C'est Jésus qui a mené ce combat, Jésus qui a payé le prix afin que tous soient sauvés. Jésus, cet homme plus puissant que les Assyriens. Et en Jésus, tous ceux qui font appel à lui ont accès au repos, à la paix et à la vie. Mais c'est en lisant les versets 5 et 6 que l'entièreté de la révélation se fait. Ce sauveur va prendre la forme d'un enfant, représentant ainsi l'exact opposé de l'arrogance, de l'oppression et de la guerre. Tout ce que les Assyriens représentaient, tout ce que le peuple d'Israël vivait à cette époque-là. Dieu veut délivrer son peuple de tout cela, au travers d'un enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette symbolique, un enfant. On pourrait attendre, les Juifs encore aujourd'hui attendent un guerrier qui vient les délivrer directement comme ça, mais non, il est venu comme un enfant. Dieu est venu lui-même sur terre sous la forme d'un enfant. L'humilité dont il a dû faire preuve. Il s'est fait tout petit, il s'est fait tous à tous. Et ça montre également aussi à quel point il est proche de nous. Cet enfant, il ne s'agit pas de n'importe quel enfant. Cet enfant, il va régner. Et à l'époque, lorsque il allait avoir un nouveau dirigeant, c'était courant en fait, de lui donner des qualificatifs. Et cet enfant va en recevoir également. Des qualificatifs qui vont vraiment représenter, mais qu'est-ce que sera son règne ? Ésaïe perçoit donc la venue du Messie, Jésus-Christ, qui a ouvert son règne et son royaume, accessible à tous ceux qui se tournent vers lui. Ce royaume du déjà et du pas encore. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Tout est poussé par le zèle de Dieu, par la volonté seule de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà dans quel royaume, lorsque nous donnons notre vie à Christ, dans quel royaume nous sommes. Alors ce matin, je désire nous encourager à saisir ce manteau, à être dans la réjouissance, car un sauveur nous est né et un sauveur nous a été donné, et qu'en lui nous avons été libérés des ténèbres. Et pour tout le monde, quand on quittera ces lieux, n'oubliez pas de revêtir ce manteau de lumière, pour vous, mais également pour refléter Dieu autour de vous pendant cette période de Noël. Je nous invite à nous saisir pleinement de ces vérités. Et si ce matin l'un d'entre vous a été touché par ce qui a été dit, Alors, on va prendre un temps musical, si Sarah, tu peux venir. Et juste pour aussi laisser tout ce qui a été dit venir descendre dans notre cœur. Mais si ça vous a parlé particulièrement, je veux vraiment vous proposer de faire un pas pour le Seigneur. On va pouvoir juste fermer les yeux, se placer devant notre Dieu. Et je vous propose, de, si ça vous touche, si, ouais, bah que vous puissiez vous lever juste devant votre Dieu. Amen.